Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, une série de 22 émissions du Père Joseph Sabalo enregistrées dans les années 90 pour Radio Lapourdie. Par cette rediffusion, Radio Lapourdie rend hommage au Père Joseph Sabalo, originaire d'Asparin, qui est décédé le 5 novembre 2019. Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, 12e épisode de la Réforme.
Le 31 octobre 1517, le moine augustin Martin Luther a posé sur la porte de la Schlosskirche de Wittenberg en Thuringe ses 95 propositions contre les indulgences. Ce geste a déclenché un mouvement d'une extraordinaire ampleur qui a coupé en deux la chrétienté occidentale. Les circonstances sont connues. Il y avait alors dans cette partie de l'Allemagne toute une campagne de quête destinée en partie à couvrir les frais de la reconstruction fastueuse de la basilique Saint-Pierre de Rome et pour l'autre part à permettre à l'archevêque de Magdebourg et Mayence et évêque d'Halberstadt, Albert de Brandebourg, de rentrer dans les frais énormes 25 000 ducats, qu'avait coûté à cet homme jeune de 24 ans l'autorisation papale de cumuler la charge et les bénéfices de 3 évêchés. Les aumônes étaient récompensées par l'octroi d'indulgences. La campagne était menée de façon bruyante par des prédicateurs dont le plus connu était un dominicain nommé Tetzel. On allait jusqu'à des proclamations du genre de celle-ci « Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Wegfeuer springt. » Aussitôt que l'argent a teinté dans la caisse, l'âme bondit hors du purgatoire. Les propositions de Luther, ses thèses sur les indulgences, ne manquent pas de vigueur. Nous n'en citerons que quelques-unes. Elles suffiront à montrer que, d'après Luther, les indulgences sont vaines et qui attachait sa confiance à un effet pervers. La 27e proposition. Ils font bien voir leur côté humain, ceux qui affirment qu'aussitôt que la pièce de monnaie retentit dans le bassin, l'âme s'envole hors du purgatoire. La 28e. Ce qui est certain, c'est qu'au tintement de la pièce tombant dans le bassin, croissent le gain et la cupidité. Le suffrage de l'Église n'est qu'au pouvoir de Dieu seul. La 32e. Ils seront damnés éternellement avec leur maître, ses disciples qui, au moyen des lettres d'indulgence, se croient assurés de leur salut. La 45e. Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui voit un homme dans le besoin et le néglige pour acheter des indulgences ne s'assure pas les indulgences du pape, mais la colère de Dieu. La 82e. Pourquoi le pape ne vide-t-il pas le purgatoire par sa très sainte charité et en raison de l'extrême nécessité des âmes, ce qui serait le plus juste des mobiles, alors qu'il rachète des âmes pour obtenir un très funeste argent destiné à bâtir la basilique, ce qui est un motif des plus futiles? À vrai dire, certaines des 95 propositions manifestent une certaine hésitation à condamner le pape. Les indulgences, pense Luther, sont mal comprises. Elles sont, aux yeux du pape, une approbation, un encouragement à accomplir une bonne action. Il n'empêche que les protestations du moine augustin eurent un retentissement énorme dans une Allemagne qui se considérait comme exploité, pressuré par la papauté. Sa critique, qui rejoignait celle de beaucoup d'autres, portait du reste sur un point certainement obscur et peut-être discutable de la doctrine, l'application par l'Église des mérites des saints aux intentions de celui qui accomplit telle démarche de piété. On peut observer en passant que la pratique des indulgences tend de nos jours à tomber en désuétude, quoiqu'elle ne soit pas rejetée par l'Église catholique. Le catéchisme de 1992, que le Saint-Père a revêtu de son autorité, consacre une bonne page aux indulgences, en se référant en particulier à cette définition de Paul VI. L'indulgence est la rémission par Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute, la culpa, est déjà effacée. Rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées par l'action de l'Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. Dénoncé au pape par l'archevêque de Mayence, Luther fut condamné par la bulle Exsurge Domine du 15 juin 1520. On le menaçait d'excommunication à moins qu'il ne se rétractât dans les 60 jours. Le pouvoir impérial était mis en demeure d'exécuter la décision, destruction par le feu, donc auto-da-fé, des œuvres écrites de l'hérétique, arrestation, procès et condamnation pouvant aller jusqu'à la peine de mort. Bien loin de se rétracter, Luther défendit cette thèse au cours de colloques publics à Heidelberg et à Leipzig. Au cours de cette même année 1520, il publia 4 écrits courts et d'un grand retentissement, l'appel à la noblesse chrétienne d'Allemagne, la captivité de Babylone, de la papauté et la liberté du chrétien. Le 3 janvier 1521, il fut excommunié. Convoqué en mars 1521 à Worms, où Charles Quint tenait une assemblée des princes et des évêques, il eut le courage de s'y rendre, fort, il est vrai, de l'appui du prince Frédéric de Saxe. Au lieu de se soumettre, il prononça un discours net et dur jusqu'à l'agressivité. « Le pape, dit-il, est la puissance, qui, par ses détestables doctrines et son mauvais exemple, a causé la corruption, la dévastation et la ruine du monde chrétien corps et âme. Personne ne peut le nier ni le dissimuler. L'expérience de tous et la plainte de tous les témoins montrent que les lois du pape et ses doctrines humaines sont pour la conscience chrétienne les pires des joues, des fardeaux, des tyrannies et des fléaux. » Comme on lui demandait s'il se rétractait et renonçait à sa doctrine, il répondit « Si on ne me convainc pas par le témoignage de l'Écriture ou par des raisons décisives, je ne puis me rétracter, car je ne crois ni à l'infaillibilité du pape ni à celle des conciles, parce qu'il est manifeste qu'ils se sont souvent trompés et contredits. J'ai été vaincu par les arguments de la Bible. Ma conscience est liée par la parole de Dieu. » Je ne puis et ne veux rien révoquer, car il est dangereux et il n'est pas droit d'agir contre sa conscience. Dieu me soit en aide. » Fort du sauf-conduit qu'avait obtenu pour lui le prince de Saxe, Luther sortit libre de la diète de Worms. Après 10 mois passés dans le secret du château de la Wartburg, où Frédéric de Saxe le retint par prudence, Luther devait retrouver Wittenberg et y poursuivre son œuvre schismatique. Comment en était-il arrivé là? La révolte de Luther avait sa source dans un drame intérieur d'une intensité poignante. C'était le fils d'un mineur de Eisleben, une ville de moyenne importance qui se trouve en Allemagne orientale, à 30 km à l'est de Halle, à 60 km de Leipzig. Comme son père avait acquis quelque aisance et s'était établi à son compte, il entra à l'université d'Erfurt. Il avait acquis la maîtrise de droit lorsque, en 1505, à 22 ans, préoccupé de son salut, impressionné par la foudre qui avait manqué de tuer, il entra au couvent des ermites de Saint-Augustin à Erfurt. Deux ans après, on l'ordonnait prêtre. En 1510, sous Jules II, il fit à Rome, qu'il voyait pour la première et dernière fois, le voyage d'un pèlerin bien disposé. Martin Luther était un bon moine, appliqué à la prière et à l'étude, mais terriblement tourmenté. Plus tard, il racontera. Quand je célébrais à Erfurt mes prémices, ma première messe, et que je lus ces mots « Offero tibi Deo vivo eterno », je fus si épouvanté que je songeais à m'enfuir de l'autel. Et je l'aurais fait si mon précepteur ne m'avait retenu. Je m'arrêtais et je songeais « Qui est celui à qui tu parles ?» Depuis lors, j'ai dit la messe avec une grande frayeur. Je remercie Dieu de m'en avoir délivré. Au couvent, nous avions assez à manger et à boire, mais le cœur et la conscience souffraient le martyre, et les souffrances de l'âme sont les plus douloureuses. J'ai été souvent effrayé par le nom de Jésus, et quand je le regardais sur la croix, je croyais qu'il était pour moi comme la foudre. Quand on prononçait son nom, j'aurais préféré entendre nommer le diable, car je croyais qu'il me fallait faire des bonnes œuvres jusqu'à ce que le Christ me fût par elles rendu favorable. Au couvent, je ne songeais ni à l'argent, ni aux biens de ce monde, ni aux femmes. Mais mon cœur tremblait et s'agitait en songeant comment il pourrait se rendre Dieu favorable. Les cheveux se dressaient sur ma tête quand je pensais au jugement dernier. Nous avons cru que nous devions apaiser la colère divine avec nos œuvres et mériter par elle le ciel, mais nous n'avons réussi à rien. Toute ma vie n'était que jeûne, veille, oraison, sueur, mais sous le couvert de cette sainteté et de cette confiance en ma justice propre, je nourrissais une perpétuelle défiance, des doutes, une crainte, une envie de haïr et de blasphémer Dieu. L'angoisse du salut imprégnait la spiritualité de l'époque. Elle était avivée chez Luther par sa nature ardente et ultra-sensible et par l'impossibilité qui était la sienne de réprimer les tentations solitaires de la chair. Plus tard, il écrira « Je voudrais bien venir au secours des moines et démoniales, tant j'ai pitié pour tous ces jeunes gens et jeunes filles dévorés de pollution et de tentation. » D'où une mélancolie chronique et un terrible sentiment de culpabilité. La concupiscence, dit-il, revenait perpétuellement. Je ne savais trouver de repos. J'étais continuellement crucifié par des pensées comme celle-ci. Voilà que tu as encore commis tel ou tel péché. Qui guérit Luther? Car il guérit. Ce ne fut pas un psychanalyste, et pour cause. Ce ne fut pas un psychothérapeute. Ce ne fut pas un sexologue. Ce ne fut pas non plus son ami et mentor, le moine Staupitz, le supérieur du couvent d'Erfurt, grâce à qui le docteur Luther obtint une chaire de théologie à l'université de Wittenberg. Celui qui le guérit, c'est saint Paul. C'est en lisant l'épître aux Romains qu'il eut cette illumination « Justus ex fide vivit », le juste vit de la foi. Ce ne sont pas les œuvres, ni l'accomplissement de la loi, ni les indulgences, ni les bonnes œuvres qui sauvent, c'est la foi en Christ rédempteur qui couvre la multitude de nos péchés. Lorsqu'il se demande en quel sentiment consiste cette foi, il arrive à Luther d'écrire que le véritable croyant est disposé à tout, même à l'enfer, dans la confiance qu'il fait au Christ. Plus souvent, il déclare que la foi consiste dans la conviction d'être sauvé. Parfois, il donne à sa pensée une forme mesurée, correcte, et d'ailleurs conforme, quoi qu'il pense et dise, à la théologie catholique. Ainsi, dans son livre « De la liberté du chrétien », qui est peut-être le plus beau de ses écrits, « Pour que vous puissiez sortir de vous-même, c'est-à-dire échapper à votre perte, Dieu vous présente son Fils bien-aimé Jésus-Christ et vous dit par sa vivante et consolante parole que vous devez vous abandonner à lui avec une foi inébranlable et vous confier à lui avec ardeur. Ainsi, par une foi si ferme, tous vos péchés vous seront pardonnés. Votre corruption sera vaincue. Vous serez juste, sincère, pieux, pacifié, et tous les préceptes seront remplis, et vous serez libre de toute obligation, ainsi que nous le dit saint Paul, un parfait chrétien vit seulement de la foi. Et ailleurs, dans les Romains, également, le Christ est la fin et la plénitude de la loi pour tous ceux qui croient en lui. Mais il arrive aussi que le naturel violent et excessif de Luther l'entraîne à tenir des propos ou à produire des textes abusifs et déconcertants. Ainsi, cette lettre du 1er août 1521 à son cher ami et disciple Philippe Melanchthon, qu'on a traduite en bref par la fameuse formule « Pecca fortiter, sed crede fortius ». Si vous êtes prédicateur de la grâce, dit-il à Melanchthon, vous devez prêcher une grâce non feinte, mais véritable. Si la grâce est vraie, ne croyez pas que le pécheur soit fin. Dieu ne sauve pas les pécheurs fins. Soyez pécheurs et péchez hardiment, mais ayez confiance et réjouissez-vous dans le Christ plus hardiment encore, car il est vainqueur du péché, de la mort et du monde. Il faut pécher. Man muss sünden. Aussi longtemps que nous sommes ici-bas, cette vie n'est pas la demeure de la justice. Mais, dit saint Pierre, nous attendons des cieux nouveaux et une terre nouvelle où habitera la justice. Il suffit que nous reconnaissions par les richesses de la gloire de Dieu l'agneau qui enlève les péchés du monde. Nous ne serons pas séparés de lui par le péché quand même nous ferions 1000 fornications ou 1000 meurtres en un seul jour. Pensez-vous que le prix et la rédemption donnés par un tel agneau pour nos péchés soient si petits? Priez hardiment, car vous êtes un très hardi pécheur. Cette doctrine du salut par la foi sera toujours au cœur de la pensée de Luther. Et il prétend l'opposer au dogme catholique qu'il tient en réalité pour juste, à condition de considérer que la foi véritable ne peut aller sans la charité. À partir de 1522 et jusqu'à sa mort en 1546, Luther s'employa contre son gré, car il n'avait jamais pensé fonder une église, à donner des consignes à ceux qui tournaient le dos à l'Église catholique, fort de l'approbation et de l'appui des princes allemands gagnés à la protestation anti-romaine. Il écrivit un grand puis un petit catéchisme, traduisit la Bible en allemand, polémiqua avec les catholiques d'une part et également avec les extrémistes anabaptistes dont Karlstadt, Thomas Münzer et Storch étaient les chefs de file. La communion sur les deux espèces, le mariage des prêtres, les vœux monastiques, le mode de réalisation de la présence eucharistique reviennent souvent dans ces débats. En 1525, éclata en Alsace, en Rhénanie, au Palatinat, une formidable révolte des paysans au nom des principes égalitaires et communautaires du christianisme primitif. Les églises et les châteaux brûlèrent par centaines et l'on vit se produire tous les excès que provoquent les révoltes armées des masses. La réaction de Luther fut d'une singulière sévérité et même cruauté à l'égard des paysans. Dans un manifeste contre les bandes meurtrières et pillardes des paysans, c'est le titre, il appela les seigneurs à écraser la révolte. Le séditieux, ouvertement connu comme tel, est par le fait même au ban de Dieu et de l'Empire. Quiconque peut l'égorger fait une bonne action. Tout le monde est son juge et son bourreau. Quand le feu est quelque part, le premier qui l'éteint se couvre de gloire. Or, la sédition n'est pas un simple assassinat. C'est comme un incendie qui enflamme et dévaste tout le pays. C'est pour cela que tous ceux qui peuvent l'arrêter, égorger, frapper en public ou en secret, doivent le faire. et se rappeler que rien n'est plus venimeux, plus nuisible, plus diabolique qu'un révolté. C'est comme un chien enragé. Si on ne le tue pas, il vous tue, et tout un pays avec vous. Cher Seigneur, délivrez-nous, sauvez-nous, secourez-nous, sabrez, frappez, égorgez tant que vous pourrez. Y a-t-il lieu de commenter? Les révoltés furent effectivement écrasés à Frankenhausen le 15 mai 1525. Au cours de cette même année 1525, si tragique, Martin Luther se maria avec une ancienne moniale sortie de son couvent et réfugiée à Wittenberg, beaucoup plus jeune que lui, Catherine von Bora. Sa démarche étonna. Il avait répété 100 fois qu'il ne se marierait pas. Il déclara qu'il se mariait pour faire la nique au diable. En fait, ils eurent plusieurs enfants et il semble bien que Luther fut un bon père et un mari affectueux. De ce mariage qui déconcertait, Melanchthon donnait l'explication suivante. C'est un homme extrêmement mobile et les nonnes l'ont enveloppé avec toutes leurs adresses. Cette fréquentation assidue des nonnes, bien qu'il soit énergique et de grande âme, l'a amolli et peu à peu enflammé. Et c'est ainsi qu'il en est venu à ce changement étrange de vie. J'estime du reste qu'il était contraint de se marier par sa nature même. Ce genre de vie est humble mais pieux et il plaît davantage à Dieu que le célibat. Et comme je vois que Luther lui-même a du chagrin et qu'il est tourmenté au sujet de ce changement de vie, je m'applique de tout mon pouvoir à l'encourager, car après tout, il n'a rien fait qui mérite des reproches ou qui exige une apologie. J'espère que ce genre de vie le rendra plus sérieux et lui fera abandonner les grosses bouffonneries que nous avons souvent blâmées en lui. Une vie nouvelle, comme dit le proverbe, produira une conduite nouvelle. Dans les dernières années de sa vie, les disciples et les amis du docteur Luther recueillirent ses propos de table, les Tischreden. On peut douter qu'il lui ait rendu service. Nous voyons là un homme installé dans une vie bourgeoise assez confortable et douillette, conteur fertile, truculent plutôt que disert, amateur de bons mots et d'anecdotes salaces, presque toujours cru et même grossier. La répétition de termes scatologiques et de références aux démons donne l'impression d'obsession. Contre ses ennemis, et particulièrement contre le pape, qu'il considère comme l'antichrist, Luther se répand en injures d'une extraordinaire violence. Qu'on en juge par ces quelques lignes que j'emprunte à son dernier livre, celui « Contre la papauté », c'est son titre, publié en mars 1545. « Viens ici, pape Anne ». En tête de l'ouvrage se trouvait une gravure représentant le pape en ornements pontificaux, mais avec une tête d'âne et entouré de démons hideux qui le couronnent d'un baquet d'ordures. « Viens ici, pape Anne, avec tes longues oreilles et ta gueule damnée de mensonges. Les Allemands ont reçu l'Empire romain, non de ta faveur, mais de Charlemagne et des empereurs de Constantinople. Tu n'en as pas fourni la largeur d'un cheveu. » Mais tu en as volé immensément davantage par tes mensonges, tes tromperies, tes blasphèmes, tes idolâtries, en te conduisant comme un diable à l'égard des évêques, par des mensonges d'abord, puis par les palliums, les serments, les taxations. La papisterie diabolique est le plus grand fléau de la terre et le plus menaçant que tous les diables aient pu fabriquer en y mettant tout leur pouvoir. Luther mourut d'une congestion cérébrale le 18 février 1546, à 63 ans, à Eisleben, sa ville natale. Après sa mort, la doctrine et le culte luthérien, qu'on pourrait caractériser par l'importance primordiale de la prédication, la scène dominicale, les sacrements réduits au baptême et à l'Eucharistie, sa doctrine et son culte, qu'avaient particulièrement contribué à fixer les articles de Smalkard de 1537, la confession d'Augsbourg de 1540, plus tard la formule de Concorde de 1579, continuèrent à se répandre et finalement constituèrent la confession dominante du nord et de l'est de l'Allemagne, du Danemark et des pays scandinaves. Le luthéranisme, plus qu'une hérésie, qu'il est aussi sans doute, est un schisme. C'est une condamnation abrupte de l'Église, un rejet non seulement des apports ou additions du Moyen-Âge, mais de toute la tradition chrétienne, sinon de toute religiosité, au nom de la seule foi au Christ rédempteur, grâce au recours de l'Écriture. Son mérite, c'est de souligner avec force l'essentiel du christianisme, l'abandon entre les bras du Christ Sauveur. Personne pour la réformation, les réformés préfèrent employer ce terme plutôt que celui de réforme, personne donc pour la réformation, ou ce qu'il vaudrait peut-être mieux appeler le schisme protestant, n'a joué un rôle plus décisif que Martin Luther. Mais il va de soi que beaucoup d'autres ont préparé, accompagné et continué son œuvre. Par exemple, on ne peut oublier qu'il a des précurseurs dès le XIVe siècle. La pensée de l'anglais John Wycliffe et du tchèque Jean Hus présente une étroite et frappante similitude avec la sienne. Ce sont l'un et l'autre, Wycliffe et Jean Hus, de très fortes personnalités. Nés vers 1328 dans le Yorkshire, au nord de l'Angleterre, brillant étudiant d'Oxford, puis professeur de philosophie dans cette même université, Wycliffe était un intellectuel de haut vol. Son sens critique aiguisé trouva ample matière à s'exercer contre la fiscalité pontificale, le trafic des bénéfices, la richesse des évêques, la scandaleuse conduite des prêtres et des moines. Plus profondément, on relève dans sa pensée les grands thèmes que développera également Luther. Sur la nature de l'Église. Qu'est-ce que l'Église ? Demandait son traité des Ecclesia, publié en 1378. Prélats et abbés, moines, chanoines et religieux mendiants, tous les tonsurés, même s'ils vivent mal. Non. L'Église, c'est l'assemblée des élus, des hommes que Dieu sauve, et eux seuls. Elle se confond avec le royaume de Dieu. Non pas le peuple de Dieu, comme nous aimons à dire à la suite du Concile, nous autres catholiques, mais le royaume de Dieu. À l'Église établie, avec ses institutions et sa hiérarchie, il oppose une société invisible, transcendante, qui est le corps vivant du Christ. L'Église terrestre n'a évidemment pour Wycliffe aucune autorité. La parole de Dieu portée par la Sainte Écriture est la seule source authentique de la vérité. Comme fera plus tard le docteur de Wittenberg, Wycliffe dénonce les indulgences qui ne sont que de diaboliques attrape-nigauds. Il écrase de son mépris les prêtres, passe au crible les saints dont la canonisation ne lui semble rien une garantie de vertu. Semblable en cela encore à Luther, il accompagne ses considérations de violences extrêmes. Pour lui, le pape est l'homme de péché. Gog, le chef du clergé césarien, le membre de Lucifer. Luther avait traduit la Bible en allemand, deux disciples de Wycliffe, Erfurt et Purvey, la traduisent en anglais. Protégé par le pouvoir royal sous Édouard III et Richard II, Wycliffe échappa aux censures les plus graves et mourut paisiblement dans l'une de ses deux cures le 31 décembre 1384. Par contre, ses partisans, les Lollards, se livrèrent à des excès qui les firent sévèrement persécuter en 1399. Quelques-uns d'entre eux périrent dans les flammes. Wycliffe lui-même subit une condamnation posthume. Le concile de Constance, en 1415, considéra que 48 de ses propositions étaient hérétiques. En 1524, on déterra ses restes pour les brûler. Jean Hus, lui, fut brûlé vif. Les Tchèques le regardent comme un héros national, ainsi qu'en témoigne sa statue gigantesque au cœur de Prague. Né à Usineš, en Bohême, en 1369, Jean Hus était en 1402 recteur de l'université de Prague, confesseur de la reine Sophie et le prédicateur en vogue de la ville. On se pressait en masse pour l'écouter dans la chapelle dite de Bethléem, où se trouve dans son beau manteau rouge le célèbre enfant Jésus. On a dit de lui qu'il était un admirable orateur populaire, au verbe chaud, au développement précis, qui possédait le don de magnétiser un vaste auditoire, avec quelque chose d'excessif, de démesuré, et dans le caractère une force qui pouvait et devait le mener jusqu'au sacrifice. Les idées de Wycliffe s'étaient répandues parmi les étudiants de Prague. Jean Hus s'enflamma pour elles. La foi ne devait s'appuyer que sur la parole de Dieu. La primauté romaine était un mensonge de l'Antéchrist. La concurrence entre les deux puis trois papes du grand schisme le montrait bien. Le fougueux orateur populaire rejetait la confession, la confirmation et l'extrême onction, condamnait le culte des saints, refusait les indulgences, enseignait la prédestination. En même temps, il attaquait le haut clergé de Bohême et Moravie, composé en grande partie d'Allemands. Le pape Innocent VII, puis Jean XXIII, le pape du concile de Pise, qui fut ensuite déposé en 1415. Donc Innocent VII, puis Jean XXIII, interdirent Jean Hus de prédication. En 1411, il fut excommunié. Et comme des troubles graves avaient éclaté à Prague en sa faveur, la ville fut frappée d'interdits. Aucune célébration religieuse ne pouvait y avoir lieu. En décembre 1414, Jean Hus fit appel au concile de Constance. Là, en dépit du sauf-conduit que l'empereur Sigismond lui avait délivré, il fut arrêté, mis en procès, jeté en prison, et le 6 juillet 1415, on le brûlait, après l'avoir solennellement dégradé de ses prérogatives sacerdotales. Cet événement suscita en Bohême une intense émotion. L'archevêque de Prague dut s'enfuir. 7 conseillers catholiques furent jetés par les fenêtres de l'hôtel de ville. C'est la fameuse défenestration de Prague. Les masses se lancèrent dans un soulèvement populaire qui ravagea le pays. On appelait les révoltés soit les utraquistes, de l'une et de l'autre espèce eucharistique, parce qu'ils se conformaient à la consigne que leur avait donnée Jean Hus de communier sur les deux espèces, soit les taborites, parce que le maître avait aimé faire retraite dans la ville qui portait le nom de Tabor. Toutes sortes d'illuminés joignirent la Bohême. Par exemple, les Adamites, qui voulaient vivre comme au paradis terrestre et ne pas porter plus de vêtements que nos premiers parents n'en portèrent là-bas. Il fallut près de 20 ans pour réduire les masses révoltées. Les troupes impériales les écrasèrent finalement à Lipan en 1434. Le cas de Savonarole, le célèbre prieur dominicain du couvent de Saint-Marc à Florence, Giacomo Savonarola, ne peut être assimilé à ceux de John Wycliffe et de Jean Hus. Savonarole n'avait absolument rien d'un hérétique. Sa protestation véhémente appelait seulement clergés, moines et fidèles à une conversion morale. Dans la Florence fastueuse de Laurent le Magnifique, dans les toutes dernières années du Quattrocento, il s'attacha, grâce à son éloquence admirable et à sa vertu, tout un parti qui domina la ville, une ville effrayée par l'invasion française, en quoi envie le châtiment annoncé par le terrible dominicain. Charles VIII obligé de repasser les Alpes, la frayeur passée, les seigneurs florentins retrouvèrent leur superbe et Savonarole fut brûlé sur la Piazza della Signoria un jour de 1498. Je me souviens que je me trouvais sur cette place parmi la foule un jour de mai 1952. On y célébrait le 5e centenaire de la naissance du célèbre tribun. Du discours du maire Giorgio Lapida, j'ai retenu qu'il tenait Florence pour la più bella città del mondo. Et nous en étions d'accord, nous qui l'écoutions, nell'una delle più belle piazze del mondo. Dans l'entourage de Luther, ou parmi ceux qui ont été en relation avec lui, certains ont joué un rôle important. Ainsi, les extrémistes Karlstadt et Thomas Münster, les reîtres Ulrich von Hütten et Franz von Sickingen, les Suisses et Colombard et Zwilling, Bucer, qui dirigea la communauté protestante de Strasbourg, Gabriel Biel, Nicolas Storch, Philippe Melanchthon surtout, l'ami très cher qui exerça sur le docteur de Wittenberg une influence modératrice. Et il y aurait également lieu de parler des premiers réformés de France, en particulier du cercle de Meaux et de Lefèvre d'Étaples, et sans doute aussi de l'influence éclairée d'Érasme. Mais l'autre grande figure de la Réformation, c'est Calvin. Calvin est un tout autre homme que Luther. Maigre, sec, froid, méditatif, réfléchi, taciturne, mais d'une volonté farouche, intraitable. Du protestantisme, si Luther fut l'inspirateur, Calvin fut l'organisateur. De lui se réclament les églises réformées de Suisse romande, de France, des Pays-Bas et d'Écosse. Jean Calvin naquit à Noyon, en Picardie, le 10 juillet 1509. Il avait donc 26 ans de moins que Luther et appartenait à ce que Congar appelle la deuxième génération de réformés. Sa famille, disposant d'un bénéfice canonial, on le destinait au sacerdoce. En fait, il fit à Paris, à Orléans, à Bourges, de fortes études littéraires et juridiques. À 23 ans, il publiait un brillant commentaire du De Clemencia de Sénèque. Mais très vite, il renonçait à la gloire des lettres pour ne plus rechercher que celle de Dieu. Sa conversion ne relève pas, semble-t-il, de tourments intimes, mais de considérations proprement théologiques. Calvin est saisi par l'idée de la souveraineté divine. Il est écrit, le pasteur Greiner, le champion passionné des droits, de l'honneur et de la gloire de Dieu. Comme Ignace de Loyola, à qui Calvin ressemble par bien des traits. Connaître Dieu, afin que nous rapportions toute notre vie à sa gloire, ad majorem Dei gloriam. Tel est pour lui le but que le Seigneur assigne à toute chose, à sa création, à notre existence, à notre sanctification, à notre salut. Ce dernier, le salut, dépend si totalement de lui qu'avec une logique et une foi imperturbable, Calvin enseigne la prédestination des élus et des réprouvés, non seulement comme un corollaire de la totale souveraineté d'un Dieu libre, juste et bon, mais encore comme une source permanente d'assurance et de consolation. Tout, absolument tout, dépend de Dieu à qui nous avons affaire en toute notre vie, où rien n'arrive, sinon comme il l'a destiné. Suspect d'appartenir à la religion, Calvin dut quitter la France dès 1534 et demeura successivement à Bâle, puis à Genève où l'introduisit Guillaume Farel, puis à Strasbourg où il fut à l'école de Bucer, puis de nouveau et définitivement à Genève, où il imposa la loi du consistoire réformé et dont il fit le modèle des communautés protestantes, aussi bien qu'un lieu de refuge pour bien des persécutés et le centre de formation, l'académie des docteurs et des pasteurs. Au besoin, il usait de la manière forte, pratiquant l'excommunication ou même ne s'opposant pas à la peine capitale, ainsi dans le cas de Michel Servet, brûlé vif à Genève pour avoir nié le dogme de la Sainte Trinité et avoir critiqué la théologie de Calvin. Calvin s'employa à fournir tout ce qui pouvait assurer la vie cultuelle du fidèle et contribuer à son progrès moral et spirituel. Il écrivit des commentaires de l'Épître aux Romains, le premier traité de la Sainte Cène, un catéchisme, les ordonnances ecclésiastiques où il distingue les quatre fonctions nécessaires pour la vie d'une communauté chrétienne, celle des pasteurs, des docteurs, des anciens et des diacres, mais son grand livre, son ouvrage maître, son traité de théologie et d'ecclésiologie, le premier qui dans l'histoire ait été écrit en langue vulgaire, en français, c'est l'institution de la religion chrétienne. Contrairement à l'esprit de Luther, pour qui seule la foi compte sans que les œuvres apportent rien, Calvin insiste sur l'aspect moral du christianisme. La sanctification dont parle Calvin, dit encore Greiner, que nous citions tout à l'heure, et qui repose tout entière sur l'union du croyant avec le Christ dans l'esprit, ne consiste pas en une union mystique de nature contemplative. Parce que Dieu veut changer non seulement notre vie, mais aussi le cours du monde, et les continuelles activités et suprêmes engagements au service des frères et de toutes les causes justes, et les perpétuelles batailles. Et le même pasteur dit encore, plus que d'autres réformateurs, Calvin voit dans l'Église, qu'il appelle comme une mère, une école au service de la vocation et de la sanctification des fidèles, et par là même une instance critique à l'égard du pouvoir politique, ainsi que le ferment d'un nouveau type de société, d'une société ecclésiale laïque qui remplace l'idéal monastique médiéval. Pour Calvin, on ne fait pas son salut en quittant la terre, mais si on la prend en charge pour la transformer. Telles sont les figures maîtresses du mouvement protestant, les acteurs principaux de sa genèse. Il en est sorti la floraison, la multiplicité considérable des églises protestantes, ces toujours plus nombreuses variations dont parlait déjà Bossuet. Luthériens, calvinistes, anglicans, méthodistes, baptistes, mennonites, adventistes du septième jour, évangélistes, pentecôtistes, et combien d'autres dont on ne sait pas toujours s'il faut les considérer comme des églises ou comme des sectes. Tour de Babel et Pentecôte. L'écuménisme a fort à faire pour que triomphe entre eux et entre eux et nous l'amour de la vérité et la vérité de l'amour.
Histoire de l'Église, une émission proposée par le Père Sabalo. C'est une rediffusion des 22 émissions réalisées par le Père Joseph Sabalo dans les années 1990 pour Radio La Pourdie. La semaine prochaine, 13e épisode, la contre-réforme.